Chapitre 3 Perspectives d'avenir de George Sheldon. Les années qui s'étaient écoulées avaient apporté très peu d'amélioration à la fortune de George. Il continuait d'occuper, dans Gray's Inn, sa vieille et sombre résidence, devenue plus noire encore par l'effet du temps. Il avait coutume de s'asseoir pendant les chaudes journées d'été près d'une fenêtre du second étage, fumant solitairement son cigare et écoutant le croassement des corbeaux qui se mêlaient aux cris des enfants qui jouaient dans le jardin en dessous. Les après-midi des dimanches, l'avocat se livrait volontiers à la méditation, se demandant quelle sorte d'homme avait été Lord Bacon et comment il avait pu se trouver compromis pour avoir reçu des cadeaux lorsque tant d'autres l'avaient imité avec la plus parfaite tranquillité. Les perspectives d'avenir de Sheldon ne lui promettaient rien de satisfaisant. Pendant longtemps, il voyait l'étoile de son frère s'élever avec une persistance charmante dans le firmament financier. Mais, sauf un dîner par-ci par-là, il n'avait pas gagné grand-chose à la prospérité de l'agent de change. George avait souvent rappelé à son frère, et avec insistance, cette vague promesse de Philippe de venir à son aide si une chance heureuse lui advenait. Mais s'il n'est pas facile d'empêcher un homme qui y est disposé à se soustraire à l'engagement le plus formel, il l'est encore bien moins d'obtenir l'exécution d'une parole en l'air. Pendant la première année de son mariage, Philippe avait donné à son frère 100 livres pour l'aider dans une grande entreprise dans laquelle l'avocat se trouvait engagé et qui, si elle réussissait, devait l'enrichir bien plus sûrement que les milliers de livres de Georgie. Malheureusement, l'entreprise échoua et George s'adressa de nouveau à son frère. Philippe déclara alors nettement à George qu'il ne pouvait plus rien pour lui. « C'est à vous de vous tirer d'affaire de votre côté, comme je l'ai fait du mien, » dit-il à George. « Merci, Philippe. J'aimerais mieux m'en tirer autrement. » Après quoi, ils se regardèrent avec une fixité extraordinaire, comme cela leur était arrivé plusieurs fois. « Vous êtes bien avare de l'argent de votre ami, » reprit George. « Si je m'étais adressé au pauvre Tom lui-même, je suis bien sûr qu'il ne m'eût pas refusé de me prêter 200 ou 300 livres. « Il est regrettable que vous ne les lui ayez pas demandé à lui-même, » répondit Philippe avec une extrême froideur. « Je l'aurais fait certainement si j'avais pu croire qu'il dût mourir si subitement. Ce fut un jour fatal pour moi et pour lui que celui où il est venu à Londres. « Qu'entendez-vous par là ?» demanda vivement Philippe. « Vous pouvez aisément comprendre mes paroles, » répondit Georges d'un ton de mauvaise humeur. « Je ne le puis nullement et je n'en ai pas l'intention. À mon tour, je vais vous dire votre fait. Maître Georges, depuis quelque temps, vous me fatiguez de vos allusions et de vos malveillantes insinuations. Il faut que vous me connaissiez bien peu pour ne pas savoir que je suis l'homme du monde le moins disposé à supporter cela de vous ou d'aucun autre. Vous avez essayé de prendre avec moi le ton d'un homme qui sait qu'il a le moyen d'en dominer un autre. » Mais si vous aviez vraiment le moyen de me dominer, il y a longtemps que vous vous en seriez servi. Je vois clair dans votre jeu, Georges. » Celui-ci regarda son frère avec une expression de surprise qui frisait l'admiration. « Vous êtes un esprit fort, Philippe. » La conversation en resta là. Les deux frères continuèrent à paraître les meilleurs amis du monde. George venait à la maison gothique toutes les fois qu'on l'y invitait à dîner. Les repas étaient bons et les convives étaient des gens très bien posés dans le monde. George ne dédaignait pas les bons dîners en même temps qu'il n'était pas fâché de rencontrer des hommes honorables. Mais il renonça à emprunter de l'argent à son frère. Il resta autant qu'il put chez lui. Il avait quelques affaires principalement alimentées par des gens qui avaient besoin d'argent, ou dont les pas chancelants devaient être guidés dans le dédale de la cour des faillites. Il parvenait à grand-peine à vivre tant bien que mal et à rester inscrit sur le tableau des avocats. Et la grande aspiration de sa vie ne se réalisait pas. Elle était comme une ombre fuyante qu'il cherchait vainement à fixer. L'idée dominante de Georges était qu'il y a de par le monde de grandes fortunes qui n'attendent qu'une occasion de s'offrir à quelque propriétaire entreprenant. Il trouvait juste que ce fussent les plus habiles et les plus intelligents qui provoquassent cette occasion, et il estimait être de cela. C'est pour cette raison qu'il étudiait les vieilles chroniques des comtés et fouillait sans cesse les vieux documents de l'état civil. Ses recherches l'avaient amené à connaître toutes sortes d'histoires extraordinaires. C'étaient des laboureurs enlevés à la charrue à qui l'on avait appris qu'ils étaient les légitimes propriétaires d'un revenu de 40 000 livres. Des vieillards mourant de faim dans de misérables taudis qui auraient pu prétendre à des fortunes incalculables s'ils avaient su s'y prendre. De pauvres femmes décrépites qui avaient couru le monde entier avec leurs sacs emplis de paperasse usée, établissant leurs droits et les injustices dont elles étaient victimes. Calomniée et repoussée jusqu'à l'heure où elle rencontrait un avocat subtil, entreprenant, opiniâtre, qui saurait faire triompher leur cause. Georges avait lu tant d'aventures de cette sorte qu'il s'était mis en tête qu'une chance pareille ne pouvait manquer d'arriver à celui qui aurait mis toute son énergie à la poursuivre. Il avait pris en main plusieurs affaires de succession dans lesquelles, à force de travail et d'efforts obstinés, il était arrivé à renouer tous les anneaux un à un. Il avait compulsé les registres des paroisses, pris des notes, fait des copies, et la froide atmosphère des sacristies lui était devenue aussi familière que l'air de Gray's Inn. Mais le fil de toutes ces affaires s'était toujours trouvé brisé à un moment donné. Après avoir dépensé beaucoup de temps, de patience et d'argent, soit en voyage, soit en gratification à des gens de bas étage, après avoir écouté sans se lasser les divagations des clercs ou de vieux habitants, Georges avait renoncé successivement à toutes ses espérances. Un homme moins persévérant eût été là bien plus vite et eût planté là bien plus tôt les arbres morts des généalogies. Mais les idées de George Sheldon étaient tenaces, et il en poursuivait la réalisation avec une opiniâtreté qui touchait au génie. Il voyait le succès de son frère et contemplait les splendeurs de la villa gothique avec plus de scepticisme que d'envie. Combien de temps l'agent de change flotterait-il triomphalement sur cette étonnante marée produite par le flux et les reflux des valeurs cotées ? Cela va très bien tant qu'un homme garde sa tête et son sang-froid, pensait Georges. Mais les gens de bourse arrivent toujours à perdre l'une et l'autre plus tôt qu'il ne faudrait. Un de ces jours, mon frère, avec toute sa sagesse, tombera dans le gouffre comme un autre. À tout prendre, je préfère mes chances aux siennes, car je ne risque guère autre chose que mes peines, et je resterai sur pied lorsque sonnera l'heure de réaliser une plus belle fortune que celle qu'il peut recueillir à la bourse. Pendant ce même été où Charlotte avait dit adieu à la pension et à ses études, Georges avait entrepris une besogne au cours de laquelle il espérait être largement indemnisé de tous ses travaux et de toutes ses veilles passées. Tout au commencement de l'année, avait paru dans le journal L'Observeur le court avis suivant. Le révérend John Haygarth, ancien vicaire de Tilford Haven, comté de Kent, est décédé récemment sans laisser de testament, ni aucun parent pour recueillir sa succession, s'élevant à 100 000 livres sterling environ. La couronne a réclamé l'héritage. La cour des prérogatives de Canterbury, lors de sa dernière réunion, a rendu un arrêt duquel il résulte que Mr. Paul a été nommé administrateur comme représentant de la couronne. Quelques mois après, un autre avis ainsi conçu avait été publié dans le journal Le Times. Un proche parent. Si les alliés ou proches parents du révérend John Haygarth, décédé vicaire de Tilford Haven dans le comté de Kent, laissant une fortune d'environ 100 000 livres sterling, veulent s'adresser personnellement ou par écrit à Stephen Paul, Esquire, avocat pour les affaires de la trésorerie de Sa Majesté, à la trésorerie royale, Whitehall, à Londres, il leur sera fait une communication qui les intéresse. Feu le révérend John Haygarth est présumé avoir été le fils de Matthew Haygarth, demeurant en dernier lieu sur la paroisse de Saint-Judith à Ullerton, et de Rebecca, sa femme, née Rebecca Caulfield, ayant également résidé dans la même paroisse, tous deux depuis longtemps décédés. « Cette chance est la plus belle que j'ai jamais eue, » se dit-il à lui-même, « et je serais pire qu'un fou si je la laissais échapper de mes mains. » C'était un travail aussi aride qu'insupportable. Il s'agissait de consulter une interminable série de registres et de questionner les plus vieux habitants. Et ces vieux habitants étaient si bêtes, les renseignements fournis par les registres si obscurs. George se mit à examiner l'une après l'autre toutes les lignes ascendantes, collatérales de l'intestat, ainsi que ses ancêtres, celles des frères et sœurs de son aïeul. La famille Haygarth se perdait dans l'impénétrable nuit des temps. Ce n'était pas une haute et puissante race de chevaliers ou de savants, d'hommes d'église ou d'hommes de robe, ce qui eût facilité la tâche de George. Car Burke en aurait probablement parlé, et après Burke, la tradition aurait dit son mot. Mais hélas, les Haygarth étaient une brave famille provinciale de commerçants, et ils n'avaient pas laissé d'autres traces de leur passage dans ce monde que les inscriptions sur les registres des naissances, mariages et décès dans de pauvres églises, ou un nom jeté par hasard sur quelques feuilles d'une Bible de famille. George n'en était encore qu'au commencement. Les pères et grands-pères, les oncles et grands-oncles, et toute leur progéniture formaient devant lui un imbroglio qu'il devait démêler. En même temps, il fallait s'occuper de sa petite clientèle, et il sentait que son œuvre ne serait accomplie qu'après des années, peut-être. Il avait une peur terrible que, pendant ce temps, quelque autre, aussi habile et non moins infatigable que lui, ne prît en main le même écheveau et ne parvint à le débrouiller. Il se décida à chercher un collaborateur digne de lui. Ce n'était pas commode de trouver un pareil auxiliaire, car au cas où l'affaire réussirait, il pourrait réclamer une trop forte part dans les bénéfices, ce qui ne convenait pas à l'avocat. Cela n'empêche pas que le temps marchait et que le travail n'avançait guère.